Bien, bonjour à tous. Donc je vais faire un propos introductif. Ce que je vais raconter n'est pas nouveau pour ceux qui ont lu l'ouvrage. Mais voilà, c'est bien qu'on puisse un peu tous se dire ensemble de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'accompagnement et le soutien par les pairs? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le fait que ce sont des pratiques qui sont historiquement ancrées, tout d'abord, dans ce qu'on appelait les pratiques d'entraide. Donc, de l'entraide spontanée et entre pairs. C'est une organisation de la solidarité, comme l'a rappelé Jean-Marc Maillet-Contoz, de la solidarité qui a cette spécificité qu'elle est par et pour les pairs. Par et pour les pairs est une expression très usitée au Canada, justement, mais qui montre tout l'effet d'empowerment qu'il y a derrière cet accompagnement et soutien par les pairs. Donc, cette solidarité par et pour les pairs a probablement toujours existé. Elle a probablement évolué dans ses formes, dans ses pratiques, au gré des époques, des territoires, des cultures. Ce n'est pas quelque chose de seulement d'aujourd'hui. Et elle a aussi probablement varié en fonction des épreuves et des expériences traversées. Pour ce qui nous concerne, dans notre monde contemporain, on peut dire qu'il existe plusieurs figures, plusieurs noms, plusieurs étiquettes aujourd'hui. On connaît bien l'étiquette de père aidant. Vous verrez aussi des pères émulateurs, des médiateurs santé pairs, des travailleurs pairs, des facilitateurs pairs, des écoutants, des bénévoles, des parrains. Et puis il y en a tout simplement qui font ça en s'appelant Thierry, Jean-Marc, Léonie, François. Voilà. Donc il y a plein de noms différents, mais qui qualifient l'accompagnement et le soutien par les pairs. Donc l'accompagnement et le soutien par les pairs, c'est comme l'intitulé de la journée d'études l'explique, c'est une fonction transversale qui peut prendre des noms différents. Mais c'est une fonction transversale à plusieurs champs et qu'on retrouve notamment dans le champ de la santé, du handicap et de la santé mentale. Voilà. Qu'est-ce qui réunit et qu'est-ce qui fait cette transversalité? C'est donc cet accompagnement par et pour les pairs, ce soutien par et pour les pairs, mais autour de quoi? Autour d'épreuves ou de situations traversées qui sont communes ou très similaires. Voilà, c'est autour de ça que se rencontrent les personnes et qu'elles créent des collectifs de pairs. Et quand on connaît un peu ce qui se passe à l'international, on se rend compte que des collectifs de pairs se construisent autour de domaines extrêmement variés. Vous avez les émotifs anonymes qui sont nés il y a une dizaine d'années et donc qui apprennent à gérer leur hypersensibilité ensemble. Vous avez les gens qui sont dépendants au jeu. Vous avez les gens qui ont subi des abus sexuels. Vous avez ceux qui sont célibataires et qui ne l'ont pas choisi et qui en souffrent. Pour eux, c'est une épreuve. Vous avez des personnes qui ont subi des violences domestiques. Vous avez des jeunes gens qui sont en difficulté scolaire. Vous avez des femmes qui font une dépression postpartum. Vous avez des gens qui passent par l'épreuve du cancer, ceux de l'infertilité, etc. Donc il y a toutes sortes de collectifs, en fait, où des gens qui vivent la situation se regroupent pour en parler et pour arriver à faire face aux épreuves qu'ils sont amenés à rencontrer. Voilà. Et donc l'objet de cette journée, effectivement, c'est de parler de ces rencontres en face à face, entre deux personnes, entre trois personnes, en collectif. Donc, expérience et épreuve que nous avons nous centrées, parce que c'est notre domaine de compétence, autour de handicap, maladies chroniques et troubles de la santé mentale. Qu'est-ce qui fait aussi transversalité derrière cette fonction d'accompagnement, de soutien par les pairs? Il y a une unité de constat. Il y a deux constats au moins qui expliquent pourquoi ce genre de pratique se développe. Tout d'abord, certains d'entre nous sont amenés à constater dans leur vie qu'effectivement, quand ils passent par certaines épreuves, tout seuls, ils n'ont pas pouvoir assumer et s'en sortir. L'épreuve les dépasse, ils sont dans une situation difficile, ils ont un problème qui revient, qui est récurrent, dont ils n'arrivent pas à se départir. Et autrement dit, l'entraide par et pour les pairs, elle démarre quand on a besoin d'autrui, et surtout de celui qui a su faire, qui a déjà passé par l'épreuve ou qui connaît bien la situation. Donc c'est un constat qui fait qu'on va chercher son père, parce qu'il a l'expérience. Le deuxième constat important, et qui explique cette transversalité, cette fonction qui peut prendre plein de noms différents, mais qui est la même, c'est que ce père, il a des ressources, il a des repères, il a des idées, il s'est posé des questions pertinentes, Il a des savoirs qui sont utiles et souvent efficaces. Il permet de ne pas se sentir seul. Il permet de trouver des solutions parfois. Il permet d'élargir toutes les options entre lesquelles on peut choisir et donc de faire des choix, de s'autodéterminer. Donc ce n'est pas seulement de l'empowerment, c'est aussi de l'autodétermination. Voilà. L'autre intérêt important de ces savoirs expérientiels, donc issus de l'expérience, savoir expérientiel, c'est précisément qu'ils permettent pour un père qui est, on va dire, bien établi dans l'accompagnement, qui connaît ça depuis un certain nombre d'années, d'être capable de co-construire des savoirs sur mesure avec son père, en fonction de la situation singulière et très précise de celui avec qui il travaille. Alors ces solidarités, elles peuvent prendre plusieurs formes, et nous allons parler aujourd'hui de cette solidarité qui est celle de l'accompagnement et du soutien entre pairs. Mais il existe d'autres formes de solidarité entre pairs, et notamment une autre que beaucoup de gens dans la salle connaissent ici, le militantisme et la lutte pour les droits, pour que les droits deviennent effectifs, pour qu'ils soient appliqués. Donc ça, ce n'est pas l'objet de la journée, mais effectivement, c'est aussi des solidarités de collectifs, de pairs, qui essayent donc de faire reconnaître des causes et de faire changer les politiques publiques et les comportements au quotidien. Voilà. Mais donc l'accompagnement et le soutien par les pairs, ce n'est pas la lutte pour les droits, ce n'est pas le changement de la société, ça peut, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas un engagement pour rendre les droits effectifs, c'est avant tout une priorité qui est améliorer la qualité de vie, trouver une vie qui a du sens, résoudre les problèmes de la vie ordinaire, fluidifier la vie, comme disait Jean-Marc Maillé-Contouze. C'est aussi la volonté de se changer soi-même, c'est surtout vouloir aller mieux, avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue. Donc le père accompagnant, il peut être militant associatif ou pas, ça n'a pas d'importance, les deux sont possibles. Il y a des militants qui choisissent d'investir dans l'accompagnement par les pairs. Et puis vous avez à l'inverse des accompagnements par les pairs qui refusent tout militantisme, qui refusent de changer la société, qui refusent tout soutien financier des institutions, qui souhaitent vraiment être complètement autonomes. Et vous avez l'exemple très connu des alcooliques anonymes. C'est du soutien par les pairs, les alcooliques anonymes. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur un point important qui va montrer, on va dire, tout le cœur du process. Qu'est-ce qu'apporte de spécifique cet accompagnement par et avec les pairs, par et pour les pairs? C'est précisément la relation entre pairs. Qu'est-ce qu'une relation entre pairs? Alors, la relation entre pairs, c'est bien sûr une relation d'entraide, mais cette relation d'entraide, elle n'est pas liée au fait qu'on est de la même famille. Elle n'est pas liée au fait qu'on est amis. Elle n'est pas liée au fait qu'on est du même quartier. Elle n'est pas liée au fait, qu'on est de la même génération, qu'on est du même sexe. Elle n'est pas liée au fait qu'on est du même milieu socio-culturel ou professionnel. Autrement dit, ce n'est pas pour les mêmes raisons que d'habitude qu'on se réunit. On se réunit pourquoi? Parce que même si on est très différent du point de vue des âges, du point de vue du sexe, du point de vue des quartiers, du point de vue de la profession, du point de vue de la parentalité, etc., etc., on se réunit parce qu'on vit les mêmes situations, parce qu'on vit les mêmes épreuves. Autrement dit, les collectifs d'accompagnement et de soutien par les pairs sont des collectifs d'une grande mixité sociale. Parce qu'on ne se réunit pas sur l'identité habituelle. On se réunit sur des épreuves communes. Qu'est-ce qui fonde ce sentiment que l'autre est un pair? Tout d'abord, un sentiment de proximité. De proximité parce qu'il partage l'expérience. On se rend compte, donc pour ma part, j'ai une enquête ethnographique qui dure depuis 2011. J'ai ethnographié un certain nombre de terrains. Et ce que je peux constater qui est transversal à tous les terrains, que ce soit handicap, maladie chronique, santé mentale, qu'importe, c'est que quand un père identifie l'autre comme un père, il a le sentiment qu'il va être compris facilement. Il va être compris facilement parce que l'autre connaît la situation, connaît l'épreuve. Cette compréhension, elle n'est pas forcément pensée comme analytique, ça peut être aussi une compréhension émotionnelle ou encore une compréhension stratégique. L'autre peut avoir idée de comment faire avec le psychiatre ou comment faire face à la discrimination. Il a traversé cette épreuve-là. Voilà, les émotions, c'est pareil, il les a vécues, il va comprendre ce que j'éprouve. Donc c'est vraiment donc un sentiment a priori favorable à l'échange. On a une spontanéité plus facile à s'ouvrir et à épancher son cœur, parce qu'on a l'immense soulagement d'avoir ce sentiment d'être compris a priori. Donc c'est avant même que la relation s'engage réellement, hein. C'est un sentiment a priori. Donc c'est un donné qui facilite l'entrée dans la relation et sa qualité. Autre a priori qui est important et qui explique la qualité particulière de la relation père, c'est aussi ce sentiment que l'autre va nous accueillir avec sympathie et avec empathie. Justement, également, toujours pour la même raison, hein, c'est vraiment le cœur du process, il a vécu l'épreuve, il sait ce que c'est. Et donc, il a cette bienveillance, cette sympathie, cette empathie, cette ouverture particulière. Donc, les pères ont le sentiment, quand ils rencontrent leur père et qu'ils l'identifient comme tel, qu'il y aura un accueil favorable. Ils ont ce sentiment d'une proximité relationnelle et ils font plus facilement confiance. Ils disent faire plus facilement confiance. Autre élément important de cette relation de père, la symétrie, le sentiment d'être à égalité. Parce qu'on vit la même épreuve, même si l'un d'entre nous est très riche et l'autre très pauvre, même si un est un homme, l'autre est une femme, même si on n'est pas de la même origine ethnique, même si, etc., etc., on est sur un pied d'égalité parce qu'on passe par les mêmes situations, parce qu'on passe par les mêmes épreuves. Autrement dit, on n'est pas obligé de se présenter avec la façade des jours ordinaires où on fait comme si on était normal pour ne pas être stigmatisé ou pour ne pas être discriminé. On peut se présenter tel qu'on est à son père, parce que lui-même sait de quoi il s'agit. Et autrement dit, on a beaucoup moins peur de son jugement. Et enfin, dernière chose importante de cette relation de père, et qui en montre toute sa spécificité, tout son intérêt ou tout son atout en termes d'accompagnement, c'est que le père qui s'en sort assez bien finalement avec les épreuves, au fil des années, il a trouvé des solutions pour lui, il sait y faire, il lui est attribué spontanément des savoirs expérientiels, c'est-à-dire des savoir-faire, des savoir-être. Et ce sont des savoirs expérientiels qui sont extrêmement pris au sérieux. Pourquoi ? Parce que ça marche, parce que ça fonctionne, parce qu'il y arrive. Voilà, donc ça, ce sont tous les atouts que je souhaitais signaler qui font qu'il y a une qualité particulière de relation quand on est entre pairs et donc qui peut apporter réellement en termes d'accompagnement. Troisième point que je veux aborder avec vous avant dernier point, c'est qu'est-ce que le père accompagnement ? Est-ce que le père accompagnement, c'est seulement de l'entraide spontanée ? Est-ce que c'est seulement une relation de père ou est-ce que c'est davantage que ça ? Alors effectivement, l'ethnographie montre que le père accompagnement, c'est beaucoup plus. C'était une vraie question en entrant sur les terrains en 2011. Les personnes directement concernées qui pratiquaient le père accompagnement elles-mêmes se posaient la question. Personne n'a véritablement statué. Ce que je peux dire à l'analyse, après donc quelques années de terrain, c'est que oui, il existe une posture particulière, il existe une éthique, une façon d'être relationnelle qui est plébiscitée par les pères accompagnants et qui représente un peu leur idéal. Il y a vraiment une façon de penser l'accompagnement et le soutien qui est particulière. Alors cette posture relationnelle, elle est au-delà de l'entraide spontanée. Elle commence par un premier principe, il y a tout un tas de principes qui correspondent finalement à une forme de morale, une forme d'éthique. Hein. D'abord, la demande de la personne, quand elle la formule, parce que ça démarre parce que quelqu'un souhaite quelque chose, il a envie d'aller plus loin dans sa vie, parce que cette épreuve est insupportable, ou parce que cette situation a trop duré. Donc c'est toujours parce qu'il y a une demande au départ, et parce que cette demande n'est pas travaillée, elle est prise telle qu'elle est. Ça, c'est vraiment une posture spécifique hein, qui distingue d'autres positions qui existent par ailleurs et qui ont aussi leur sens. Hein, ce n'est pas du tout une concurrence, mais c'est un autre positionnement qui permet d'autres effets. Donc, on ne travaille pas la demande. On peut poser des questions, essayer de mieux la comprendre, etc. Mais en tout cas, on la prend au sérieux telle qu'elle est formulée et on en fait la priorité de l'accompagnement. On sait bien que peut-être il serait utile de travailler sur autre chose. Peut-être qu'il serait pertinent pour la personne d'avancer sur d'autres aspects de sa vie, mais on sait à quel point, quand on travaille du côté de l'autodétermination et de l'empowerment, la motivation de la personne est le facteur principal. Il faut qu'elle ait envie, et donc il faut que ça corresponde à son projet. Donc, le père accompagnement, ce n'est pas faire le bien d'autrui, mais c'est le soutenir dans ses rêves et dans ses projets. Et donc cet accompagnement, il débute et il se poursuit que s'il correspond au désir de la personne, que s'il y a une demande. Alors cette demande, ça peut être simplement quelque chose assez informel. Hein. Je sais, par exemple, un magnifique accompagnement a démarré dans un bus entre deux personnes qui se sont rencontrées, deux femmes qui étaient infirmes motrices cérébrales. L'une avait des enfants, pas l'autre. Et la première s'installe à côté, est stupéfaite. Elle voit une personne IMC avec des enfants. Elle ne savait pas que c'était possible. Elle lui dit, les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Vous en avez eu, comment vous avez fait? L'accompagnement a duré un an. Et cette dame, maintenant, maman de deux enfants, etc., etc. Voilà, donc ça peut démarrer de manière absolument informelle et de manière tout à fait inattendue. Ce n'est pas forcément un protocole, etc. Mais en tout cas, il y a toujours une demande, il y a toujours un désir, et c'est celui-là qui est soutenu. Bien sûr, la demande peut évoluer, le désir peut évoluer. Voilà. Mais il n'y a pas d'accompagnement de soutien par les pairs si la personne n'en a pas envie, si elle n'est pas motivée. Et donc ça explique que des pairs accompagnants puissent se retrouver sans sollicitation aucune pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est possible. Autre chose, le père accompagnant essaye d'être aussi étayant que possible. Il essaye de soutenir. Il essaye d'amener l'autre à avancer dans la direction qu'il s'est choisie. Autrement dit, il ne lui dit pas quel sera l'avenir. Il ne lui dit pas c'est possible ou c'est impossible. Il ne lui dit pas vous n'en êtes pas capable. Il ne lui dit pas vous devez regarder la réalité en face. Vous avez des incapacités, il faut les prendre en compte. Ne soyez pas dans le déni de votre handicap. C'est pas qu'il pense pas qu'il y a des incapacités, lui-même les a, il sait de quoi il parle. C'est pas cette question-là qui se joue, c'est avant tout ne pas couper les ailes. Ne pas couper les ailes, pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles tout peut changer. Il y a bien sûr, la personne peut travailler sur son potentiel et le développer, et il y a toujours un potentiel à développer. Mais il y a aussi que l'environnement peut changer, on peut aussi travailler sur l'environnement. C'est pas seulement en raison de la personne que les choses n'avancent pas. Voilà. Et donc c'est pour cette raison-là, parce qu'eux ils l'ont vécu, parce qu'on leur a dit que ce n'était pas possible et qu'ils l'ont fait, par exemple cette dame qui est devenue maman alors qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, que c'est trop dangereux pour elle, trop dangereux pour ses enfants. Voilà, la plupart des pères accompagnants se sont engagés parce qu'un jour on leur a dit que ce n'était pas possible et que 10 ans après, ils l'avaient fait. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez classique, ils savent qu'il ne faut pas couper les ailes, non pas parce qu'il n'y a pas des difficultés, non pas parce qu'ils n'ont pas des limitations, mais parce que la possibilité de changement vient autant d'eux que de leur environnement, et que donc il est possible de travailler et de faire bouger les choses. Donc ils ne disent pas à la personne que ce n'est pas possible, mais ils lui disent, on ne sait pas si on va y arriver, on va essayer de faire notre maximum pour que ça devienne possible. Et donc, on t'accompagne dans la direction que tu t'es désignée. Autrement dit, être constructif et ne pas couper les ailes. Par ailleurs, les pères accompagnants ont aussi expérimenté dans leur propre trajectoire, dans leur propre vie, qu'il y a des opportunités. Et que quand on dit aux gens « vous n'êtes pas capable » ou « ce n'est pas possible », ils passent, en tout cas eux estiment, les pères accompagnants vraiment racontent tout cette histoire-là, ils sont passés à côté de situations où ils auraient pu apprendre des choses, parce qu'ils pensaient a priori que ce n'était pas possible, ils étaient convaincus que ce n'était pas possible. Donc il y a des situations dans lesquelles ils ne se sont pas investis, et dans lesquels donc, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas pu se développer. Or, pour que les choses deviennent possibles, il faut développer son potentiel. Donc, quoi qu'il arrive, on a le droit d'avoir un échec, mais on a aussi le droit d'essayer. Et de l'échec, on progressera peut-être d'une marche, et pas des 10 qu'il faudrait pouvoir, sur lesquels il faudrait pouvoir grimper, mais l'important, c'est de progresser pour pouvoir aller vers son projet. Donc l'important, développement du potentiel personnel, changement de l'environnement quand c'est possible, l'environnement de proximité hein, bien entendu, ce qui relève de la vie quotidienne. Voilà, s'il faut ajouter une rampe, eh ben, on ajoute une rampe. S'il faut changer une molécule, on change une molécule. S'il faut arrêter la molécule, il faut arrêter la molécule, qu'importe. Tout ça c'est à réfléchir et à faire de manière pas farfelue. Il ne s'agit pas de se mettre en danger. C'est un autre principe important du père accompagnement, ne pas se mettre en danger. Et réfléchir les risques. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques. De toute manière, pour avancer dans la vie, pour se construire psychologiquement, il faut prendre des risques. Tout le monde passe par une période d'adolescence. Le risque est nécessaire à la construction et à la maturation psychologique. Mais ce n'est pas une raison pour se faire du mal. Autrement dit, les risques sont réfléchis un à un. Et par exemple, une personne qui voulait aller en Australie, qui était en fauteuil électrique, a demandé à son père, qui l'a accompagné là-dessus parce que lui l'avait fait, Eh ben de lui expliquer pour les hôtels, est-ce qu'il pouvait faire du Airbnb, est-ce que, etc. L'alimentation, il peut y avoir des choses au niveau des intestins, etc. Donc il y a tout un tas de petits détails de la vie quotidienne qui vont que ça va pouvoir devenir possible. Bien sûr, partir en Australie, changer de rythme de vie, changer de décalage, le décalage horaire, l'alimentation, les modes de transport qui peuvent être différents un peu dans les entrées, les sorties, etc. Il y a plein de choses qui vont être modifiées. Il va y avoir un risque, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout faire, peut-être que ça ne sera pas toujours simple. Mais en même temps, les 3 mois en Australie se sont plutôt bien passés. Mais en face de chacun des risques qui avaient été anticipés, il y avait une liste de plusieurs options de solutions, ce qui fait qu'on avait quand même l'assurance d'avoir des bonnes chances de pouvoir s'en sortir. Donc on prenait les risques, mais ils avaient été travaillés. Ça, c'est la position donc, importante qui est tenue également par les pères accompagnants. Et puis donc, pour résumer le tout, on va dire vraiment l'idée et le cœur du process, c'est empowerment, donc développement du potentiel, prise de responsabilité, choisir sa vie, et aussi donc autodétermination. Donc il s'agit, voilà, si on pouvait résumer en une phrase, hein, qu'est-ce que l'accompagnement et le soutien par les pairs, c'est un individu qui décide pour lui-même de faire face aux épreuves et de s'en sortir, et qui, parce qu'il a décidé d'essayer de s'en sortir, va solliciter ses pairs pour trouver du soutien et des ressources. Donc tout est à l'initiative de l'individu. Et c'est en ce sens-là que c'est d'abord de l'empowerment et de l'autodétermination. Voilà. Empowerment. L'empowerment, c'est développement du potentiel, pouvoir développer ses capacités pour trouver davantage de pouvoir et de possibilités sur la réalité. Bien, est-ce qu'il suffit d'être père pour accompagner ses pairs? Non. Voilà, il ne suffit pas d'avoir l'expérience pour être père accompagnant. Il y a plein d'autres qualités qui sont requises. En fait, l'expérience n'est pas systématiquement du savoir. On peut avoir l'expérience et puis ne pas avoir élaboré cette expérience, ne pas l'avoir réfléchi, ne pas en avoir tiré la substantifique moelle. Autrement dit, on peut être, quand cette expérience est évoquée, on peut être débordé par ses émotions, par ses angoisses, on peut être envahi par sa sensibilité, on peut être sidéré, etc. Il faut avoir du recul pour être père accompagnant, évidemment. Et donc, ça suppose un travail sur soi avant, et ça suppose aussi d'avoir compris un certain nombre de choses de l'expérience qui a été traversée. On ne peut pas, bien sûr, être père accompagnant si on est malveillant, si on est agressif, si on ne supporte pas autrui, si on n'a pas envie de la relation humaine. Donc il y a des qualités humaines qui sont requises pour être père accompagnant. C'est une évidence, mais il faut peut-être le rappeler. Voilà, l'expérience ne suffit vraiment pas. C'est un discours beaucoup trop simple. Donc il faut une appétence pour les relations humaines, mais aussi une qualité dans la relation humaine, une capacité d'empathie. Il faut des talents pédagogiques, puisqu'il faut aider l'autre à trouver ses propres savoirs, ses propres solutions. Donc il faut l'aider à co-construire des savoirs sur mesure. Un autre aspect très important, être capable de ne pas se prendre pour un modèle. Ce n'est pas parce qu'on a réussi de cette manière-là que ça concerne tous les autres. Il y a plein de manières de réussir face à une même situation. Et suivant les gens, il faut être capable de trouver celle qui leur correspond et de le faire avec eux, puisque c'est de l'empowerment, c'est leur solution. Il faut que ce soit eux qui décident que celle-là leur convient. Voilà, donc on est vraiment sur des postures particulières. Et puis, il faut être capable de s'astreindre à rester dans le cadre des aspirations et des désirs d'autrui, et non pas penser qu'aux siens. Donc ça demande quand même des qualités humaines très importantes. Voilà, et puis peut-être terminer mon propos sur un exemple qui permet de clarifier de quoi parle-t-on quand on parle de savoir expérientiel, et en quoi est-ce qu'ils peuvent être utiles. Et donc c'est un exemple que j'aime bien donner, j'imagine que quelques personnes dans la salle le connaissent déjà, donc, mais c'est un exemple qui amuse beaucoup. C'est une histoire vraie. Une personne que j'ai interviewée dans le cadre de cette enquête, une personne qui est blessée médulaire, tétraplégique bas, donc il peut bouger un peu ses épaules, un peu ses hauts de bras, et puis ses mains sont comme ça, il n'a pas beaucoup de muscles, mais il peut faire quelques mouvements. Et donc il a fait une fête formidable avec des copains dans un gîte, toute la nuit, le lendemain matin il se réveille, il souhaiterait embrasser sa chair et tendre, mais son haleine ne lui permet pas, et donc il décide de se rendre en urgence à la salle de bain pour se laver les dents. Et puis voilà, là il est avec sa trousse de toilette, et il va falloir se brosser les dents avec les mains comme ça. Il fait ça tous les jours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poser la trousse de toilette sur un évier, qui n'a pas une marge de manœuvre exponentielle. Il faut arriver à ouvrir la trousse de toilette, il faut arriver à en extraire la brosse à dents. Et là, comme il a appris il y a 15 ans après son accident avec l'ergothérapeute, il faut poser la brosse à dents sur le bord de l'évier avec les poils vers le haut, parce qu'il va falloir y mettre du dentifrice. Donc il arrive à poser la brosse à dents tombe plusieurs fois parce qu'il n'a pas une motricité fine, donc c'est compliqué. Et puis au bout de 4-5 essais, parce que ça fait quand même 15 ans qu'il fait ça, il arrive à stabiliser sa brosse à dents. Puis là, il faut prendre le dentifrice, il faut arriver à mettre du dentifrice sur les poils. Vous tombez, comprenez bien, la brosse à dents retombe, on met du dentifrice dans l'évier, etc. Ça dure un certain temps, puis à un moment, on arrive enfin à stabiliser la brosse à dents, les poils vers le haut, le dentifrice. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre tout ça dans la bouche et se brosser les dents. Et vous comprenez bien que là encore, ça va retomber, etc., etc. Puis il y a un moment, enfin, en général, c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Tous les jours, il faisait ça tous les matins, tous les soirs, parce qu'il mettait un point d'honneur à le faire par lui-même. Et bien voilà, enfin, il y a un moment, il peut enfin prendre sa brosse à dents. Et puis donc, après, il la coince, etc. Puis il se brosse les dents. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il constate qu'il avait bien vu un autre tétrabat dans la soirée. Alors tétrabas, c'est la manière de parler dans le milieu. Et puis il le voit à côté de lui, qui est là pour la même opération, se brosser les dents. Et là, il découvre que cet homme prend sa trousse de toilette et comme lui, l'ouvre, mais qu'il prend le dentifrice en premier, il fait sprouch, il prend la brosse à dents et se brosse les dents. 15 ans qu'il mettait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir à se brosser les dents. L'autre, 3 minutes. Et bien là, quand il a vu son père et qu'il a vu le savoir expérientiel en matière de brossage des dents de son père, il s'est dit, bon sang, ça fait 15 ans que je me prends pour un valide au lieu d'explorer le potentiel de mon corps. Il faut que j'apprenne à faire autrement avec mon corps. Il est différent, j'apprends à faire autrement. Et qui peut apprendre à faire autrement s'il n'a pas ce corps différent? C'est ça les savoirs expérientiels, c'est là leur utilité. C'est un apport, un appout, un atout, un complément à ce qu'on sait déjà faire par ailleurs, mais qui peut apporter une qualité de vie, une utilité, une pertinence que j'imagine que vos rires signifient que vous avez compris. Voilà, je vous remercie, on va prendre quelques questions.
Bonjour, Véronique de Coudin, je suis chargée de mission réponse accompagnée pour tous dans un département... Ça marche ? Oui. Dans un département du sud de la France. Et accompagnée par mes pères depuis 2002. Ma question, rapidement, vous parlez d'une grande mixité sociale. Alors, est-ce que vous parlez d'une grande mixité sociale qui serait remarquable dans le père accompagnement? Est-ce qu'elle est vraiment généralisable à tous les champs du père accompagnement? Et est-ce qu'elle est vraiment... parce que j'ai quelques doutes par rapport à, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est beaucoup des rencontres, du hasard, cette question m'intéresse particulièrement sur comment, en tant que réponse accompagnée et l'axe 3, comment on fait d'une politique publique à partir de finalement d'une ethnographie, d'une rencontre un petit peu au gré des possibilités des uns et des autres, comment on arrive à généraliser ça par rapport à, justement, à aller chercher cette mixité sociale que j'ai du mal à mesurer. Je ne suis pas sûre qu'elle soit si large qu'on le souhaiterait nous-mêmes en tant qu'acteurs publics.
Alors, il y a un malentendu, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je veux dire par là, c'est que la possibilité de mixité sociale est très importante et qu'elle existe sur plein de terrains, mais pas simplement. Vous imaginez bien qu'une rencontre dans un cinéma, une rencontre dans un supermarché, ça fait partie des choses possibles et courantes, en fait. Pourquoi? Parce que, justement, on ne se fréquente pas par milieux sociaux. Voilà. La rencontre a lieu pour une autre raison. Après, est-ce que dans les collectifs créés, il n'y a pas plus ou moins de mixité sociale? En fait, ça dépend des collectifs. Voilà. Mais par rapport à d'autres types de collectifs ou d'autres types de relations sociales, la possibilité de mixité sociale est particulièrement importante. C'est vraiment une spécificité sociologique qui est inhabituelle. Voilà. Donc c'est plutôt en termes de possibilité qu'il faut l'entendre, une possibilité qui est actualisée ou pas. Mais voilà, autant d'habitude, les mélanges ne sont pas aussi faciles que ça, autant là, c'est facilité par justement l'expérience et l'épreuve partagée. Est-ce que c'est un ingrédient nécessaire du père accompagnement? Parce que là, j'entends que vous, vous pensez une mise en œuvre en termes de politique publique. Non, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est ses principes, c'est cette éthique, c'est etc. Mais s'il n'y a pas de mixité sociale, ce n'est pas l'essentiel, en fait. Ah oui, mais ça c'est vous en tant que porteur de politique publique. Là c'est vrai que j'ai parlé de l'accompagnement et soutien par les pairs, qui, en réalité, du point de vue historique, a été construit par les pairs eux-mêmes. Donc c'est vraiment des initiatives d'individus au départ. Et il est vrai, et ça va être l'objet de l'après-midi, en fait, les politiques publiques sont en train de se saisir de ça en France depuis 2010-2011. Voilà, donc on va évoquer ça dans l'introduction de l'après-midi. Et effectivement, ça produit des effets et on se pose des questions sur la mise en œuvre. Mais ça sera plutôt la table ronde de cet après-midi si vous avez un peu de temps.
Moi, donc, je m'appelle Christian Proux, de l'UNAFAM 35 et du collectif Handicap 35. Je suis père aidant récemment. Du collectif Handicap 35 pour tous les handicaps qui sont regroupés, bien que j'étais déjà aidant du fait que dans ma famille j'ai des personnes, donc à titre privé j'ai des personnes donc, qui ont une maladie psychique. Et moi la question que je me posais, j'avais deux questions. Quelle différence vous faites entre la père-aidance entre personnes en situation de handicap et la père-aidance entre une personne comme moi, qui suis par exemple dans une association pour d'autres personnes, ou même pour mes propres enfants ou ma fratrie, etc. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qu'il a été, mis en place, donc je fais partie de la MDPH, enfin de la CDAPH, et donc depuis le 1er janvier 2018, la RAPT a été mis en place, RAP réponse accompagnée pour tous, il en était dit un mot tout à l'heure. Et là, en tant que soutien père aidant, on est soit... alors jusqu'à maintenant, on a eu peu d'appels par rapport à la MDPH qui gère ça, parce qu'on s'est missionné soit par la MDPH, soit à la demande d'établissements services médico-sociaux, soit sur une demande dans un document d'une famille, ou lorsqu'il est mis en place un PAG, plan d'accompagnement global. Aujourd'hui, pour l'instant, moi je suis un peu resté sur ma faim par rapport à ça. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis et qui est obligatoire et qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez peut-être des informations par rapport à cette deuxième question aussi? Je vous remercie.
Pour revenir d'abord sur votre première question, père aidant suppose qu'il y ait père. Sinon, vous êtes aidant. Voilà. Donc quand nous, en tout cas, en tant que scientifiques, on va parler de père aidance, de père émulation, de père accompagnement, c'est bien le mot père qui est au cœur du process, et c'est pour ça que j'ai insisté sur qu'est-ce qu'apporte cette relation spécifique. Donc vous, en tant que parent, vous êtes père d'autres parents qui vivent l'épreuve ou la situation. Voilà, vous êtes père d'autres parents. Donc vous pouvez être père aidant pour d'autres parents, sans aucun souci. Après, si vous passez sur... vous travaillez avec d'autres types de publics, vous êtes aidant ou accompagnant, mais vous n'êtes pas père. Voilà. Donc simplement, il faut bien que, si vous voulez pouvoir mettre l'intitulé de père, il faut que ça corresponde au fait qu'effectivement, vous êtes dans une relation de père. J'ai oublié quelque chose d'absolument essentiel, qui est même le point fondamental de la relation de père, c'est la reconnaissance de l'autre comme père. Et cette reconnaissance, elle est toujours subjective. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes objectivement parent comme lui qu'il va avoir le sentiment que vous avez vécu la même situation ou qu'il va avoir le sentiment que vous avez traversé la même épreuve. C'est ce sentiment-là qui fait que vous êtes reconnu comme père, qui va s'identifier à vous et que tout le reste que j'ai expliqué va pouvoir se dérouler. Cette confiance, cette ouverture, cette qualité, cette non-appréhension de votre jugement, etc., etc. C'est parce qu'on vous reconnaît comme père. Donc ce n'est pas vous qui pouvez dire « je suis père ». Une institution peut dire « ce sont les pères, allez-y ». Mais ceci dit, s'il n'y a pas ce sentiment subjectif que vous en êtes un, ben vous allez être un accompagnant, un professionnel, un bénévole, mais vous ne serez pas un père. Le père, c'est le sentiment par l'autre. Il vous reconnaît comme père. Ça relève de sa personne, en fait, et de sa propre subjectivité. Donc, ce n'est pas quelque chose de contrôlable par l'extérieur. Ça ne peut pas être objectif, si vous préférez. Mais effectivement, d'un point de vue extérieur, l'observateur peut dire, oui, ce sont deux parents qui se rencontrent. Donc, ils sont pères. Ça ne veut pas dire que c'est vécu comme une relation de père. Voilà. Donc, l'important, c'est la reconnaissance de l'autre comme père qui fait que vous allez pouvoir ou pas vous comporter comme un père dans la relation d'accompagnement. Sinon, vous serez simplement un accompagnant. Pour la réponse accompagnée pour tous, oui, vous êtes missionné. Et qu'est-ce que c'est ? Dans le cadre du plan d'accompagnement global, oui, c'est la réponse accompagnée pour tous. Mais écoutez, ça provoque des effets. Vous n'êtes pas toujours reconnu comme un père, même si vous l'êtes annoncé. Donc il arrivera que des fois vous soyez père aidant et des fois vous serez accompagnant. Et je pense que ça serait intéressant que les personnes qui sont dans votre situation soient assez subtiles pour s'en rendre compte et donc puissent accompagner de manière différenciée suivant comment l'autre s'ouvre à la relation. Voilà, on ne peut pas forcer à la reconnaissance de père. Mais par contre, quand ce type-là de relation s'ouvre, il y a une qualité et une portée qui est très particulière, très spécifique et qui apporte beaucoup. Donc quand c'est possible, c'est une vraie opportunité pour vous et pour la personne.
Oui, bonjour, je m'appelle José Siza, je suis dans la Drôme. Et en fait, moi, j'avais une question un peu pratico-pratique, comme on dit. Hein, donc je fais de la périmulation. En fait, dernièrement, j'ai eu une demande. C'est-à-dire, c'est l'AFTC, l'Association des familles traumatisées crâniennes, qui me demande d'accompagner, en fin de compte, des traumatisés crâniens dans des échanges liés à la sexualité. Ouais. Donc, voilà, j'avais envie d'avoir un petit point de vue, ou plutôt un grand point de vue de ta part. Sur ce sujet.
Bien. Donc José, puisqu'on se connaît, d'abord pour le reste de la salle, José est en fauteuil, il n'est pas traumatisé crânien. Donc la question d'être père ou pas père se pose. Et donc c'est une excellente question de ce point de vue-là. Je connais d'autres pères émulateurs, parce que là en l'occurrence c'était des pères émulateurs, c'était le nom qui s'était choisi. Une personne aveugle qui accompagnait des personnes paraplégiques et tétraplégiques. Et ça fonctionnait très bien. Sur quoi est-ce qu'elle les accompagnait? C'était des jeunes gens. Alors lui, c'était un homme qui avait une cinquantaine d'années et qui avait une vie publique importante, qui était interprète, qui travaillait au Conseil de l'Europe, etc. Bon, il y a peut-être des gens dans la salle qui le connaissent, ils connaissent ce permulateur. Il accompagnait les jeunes gens paraplégiques et tétraplégiques qui arrivaient en première année sur le campus de sa ville. Donc c'était des jeunes étudiants, mais qui sortaient de leur famille, en fait, qui n'avaient jamais vécu seuls, qui étaient donc en devoir de se retrouver très rapidement autonomes sur un campus, qui vivaient dans des CTU, etc., et qui surtout se retrouvaient sans leur réseau habituel et donc sans leur soutien habituel. Et déjà, pour des étudiants, c'est jamais très simple hein, de se lancer dans la vie comme ça, mais là, se poser la question de comment je vais être perçue, est-ce que je vais pouvoir nouer des amitiés? Parce que je suis en fauteuil, tout le monde le voit, et je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en relation avec moi, etc. Comment est-ce que je peux mettre les autres étudiants en confiance? Comment est-ce que je vais pouvoir compter sur eux si jamais j'ai besoin de temps en temps qu'on me donne un petit coup de fourchette au restaurant universitaire? J'ai besoin des fois qu'on m'aide et je n'ai pas toujours envie d'avoir une auxiliaire de vie, j'ai aussi envie d'être avec mes amis. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir avoir une vie comme les autres? Et donc ce père émulateur qui lui était aveugle, avait fait des études d'interprétariat sur un campus, il y avait passé 5 ans, hein. Et donc il connaissait bien ce campus parce qu'il était aussi amené à travailler avec le service de formation continue, c'était aussi quelqu'un qui avait intellectuellement un bon niveau et qui faisait des formations à la fac, et donc avec ça, il prenait le temps, souvent plusieurs jours, où il prenait plusieurs heures avec chacun de ses étudiants, pour les aider d'abord à visiter le campus, à s'approprier tous les chemins accessibles, mais aussi pour faire des rencontres. Il allait avec eux discuter, provoquer des situations où on buvait des cafés, où on fumait une cigarette, et il leur apprenait des techniques pour rassurer les valides. Voilà. En tant que personne aveugle, il avait dû, et en tant qu'étudiant, rassurer les valides pour nouer des liens, et il savait faire ça. Et donc, il pouvait accompagner les personnes para ou tétra qui avaient les mêmes besoins en réalité. Hein. Voilà. Par contre, sur d'autres aspects, il ne pouvait pas les accompagner, il n'avait pas l'expérience, il pouvait en dire quelque chose, dire « j'ai un ami en fauteuil qui se débrouille de telle ou telle manière, mais je ne peux pas t'en dire plus, je ne suis pas assez fin dans l'analyse parce que je n'ai pas la maîtrise de cette expérience-là ». Mais en réalité, ne pas être exactement sur le même type de situation ou d'épreuve, ça se discute, l'expérience de la stigmatisation, l'expérience de la discrimination est quelque chose de très transversal.
Donc je voulais juste dire à la dame qui posait la question sur la mixité sociale, en fait, en tant qu'usager de la santé mentale, on peut avoir la même maladie et être super différent à la base, en fait, avoir, pas venir du même milieu, être jeune, être à la retraite, tout ça, pas avoir fait les mêmes études, etc. Donc être vraiment pas dans le même, ce qu'elle disait, quoi, le milieu social. Et donc, moi, je pense qu'au contraire, par rapport à ce qu'elle disait, on peut se retrouver facilement, en fait, parce qu'on peut avoir la même maladie ou avoir les mêmes problèmes en santé mentale. Et voilà, on peut se retrouver par hasard ou facilement dans des associations. Et on peut être, après, vachement solidaire et tout ça, même si on est différent à la base, quoi.
Bonjour. Donc, je fais partie d'Advocacy. Donc, moi, je fais de l'hyperesthésie. Donc, c'est pas évident. Déjà, je vais beaucoup mieux parce que je suis ici. Donc, déjà, pour parler devant tout le monde, c'est pas évident. Donc, je me pose la question qu'on ne voit pas d'ailleurs. On ne voit pas assez le service public intervenir dans le domaine de la santé mentale. Par exemple, quand je vois par exemple au Sénat, quand je vois des émissions, parce que j'ai beaucoup d'empathie envers les gens, je vois que la santé mentale n'est pas beaucoup abordée, quels que soient les domaines. Hein. Donc quand je dis santé mentale, c'est aussi santé sur le problème physique aussi. Mmh. Et la preuve, ici, je ne vois pas de représentants du gouvernement aussi, ou même du département, etc., qui sont présents quand on veut parler de la santé mentale. Il faudrait que les représentants du gouvernement ou même du département ou du conseil général soient plus présents dans quel que soit le domaine. Parce que moi, j'ai participé à des débats politiques parce que j'ai beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un de très curieux, et je m'aperçois que je ne vois pas beaucoup de représentants du gouvernement par rapport à plusieurs débats. Merci.
Merci. Le temps passe. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne une dernière question, là. Et puis ensuite, Ève conclut en répondant aux trois questions qui ont été posées ou un commentaire. Et puis on est obligé de passer la table ronde ensuite. Enfin, on n'est pas obligé d'ailleurs, mais ça va être très intéressant. Voilà. Oui.
Donc Brigitte Jean, je fais partie de l'association UNAFAM, donc une association pour l'entourage des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc j'ai entendu le mot formation, j'ai entendu aussi la mixité. Et je voulais rebondir là-dessus parce que vraiment au sein de l'UNAFAM, dont je fais partie depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, vraiment cet aspect de mixité est quelque chose qui d'emblée m'a énormément plu. C'est une extrême richesse au sein de l'association. Alors maintenant, donc au sein de l'UNAFAM, entre autres, je participe à l'accueil, puisque c'est une mission, une des premières missions de l'UNAFAM, c'est d'accueillir les autres familles concernées par les troubles psychiques de leurs proches. Et vraiment, ce qui m'a le plus aidé au fil du temps, c'est d'avoir, parce que c'est difficile, hein, c'est vraiment pas évident, et tout le monde au sein de l'UNAFAM ne fait pas de l'accueil parce que tout le monde ne s'en sent pas, n'en a pas envie, tout simplement. Les moments où j'ai pu avoir des aides au niveau de la formation, que ce soit au sein de l'UNAFAM, au niveau professionnel, en fait, de glaner des techniques qui aident au niveau de l'accueil de la parole de l'autre, de l'écoute, de la reformulation. Et ça, c'est vraiment des outils qui me semblent vraiment très aidants pour réussir à être bien dans son rôle de père. Voilà, parce que c'est pas si évident que ça, d'être bien dans son rôle de père, et qu'on apprend énormément au fil du temps. Mais je voulais quand même insister sur les apports des formations, voilà, qui sont vraiment des outils très aidants.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne peux que confirmer que la formation, aussi la supervision, il y a un certain nombre d'autres outils qui peuvent exister. On va évoquer ça peut-être davantage cet après-midi parce qu'on sera plus sur une possible professionnalisation. Mais effectivement, je ne peux que soutenir le propos, et également qu'il est important que les politiques publiques s'occupent de santé mentale, de handicap et de santé en général. Voilà, je vous remercie.